Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue à Abidjan. Nous sommes cette semaine à l'occasion des 20 ans du site ANRS de Côte d'Ivoire. L'ANRS, c'est l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites. C'est un organisme français qui mène des recherches avec les pays du Sud. Et à l'occasion de cet anniversaire, l'ANRS organise depuis hier des journées scientifiques pour faire le point sur les recherches en cours en Côte d'Ivoire. Hier, nous avons parlé des recherches sur le Sida et sur les co-infections Sida-tuberculose. Mais l'ANRS à Abidjan mène aussi des recherches sur les hépatites. Or, vous le savez, c'est un domaine où on avance dans les traitements, mais avec toujours une question, comment les rendre accessibles dans les pays en développement, et là, en l'occurrence, en Afrique. D'autre part, sont-ils efficaces de la même manière? C'est ce qu'on va voir avec mes invités, le professeur Alain Attia, qui est adjoint au chef de service des pathologies au CHU de Yopougon, le docteur Émile Alakouadio, qui est responsable du programme national de lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire, est également hépato-gastro-entérologue au CHU de Cocody, le professeur Jean-François Delfrécy, qui est directeur de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, coordonnateur Ebola pour la France et l'Afrique, et le docteur Camille Yanoma qui nous rejoint, qui est coordonnateur de l'ONG Espace Confiance. RFI. Bonjour à tous les quatre. Merci beaucoup d'être là pour parler des hépatites. Professeur Delfrécy, d'abord, pourquoi l'ANRS finalement a ouvert il y a 20 ans un site en Côte d'Ivoire ?
Parce que la Côte d'Ivoire à l'époque était très touchée par le VIH. C'est un pays avec lequel il y avait déjà des équipes qui avaient des relations et donc dans le montage des sites ANRS avec les pays d'Afrique de l'Ouest, ça a été le premier pays avec le Sénégal sur lequel se sont montés les deux premiers sites. Et puis à partir de là, c'est monté un partenariat, beaucoup entre des équipes de santé publique et de l'école de santé publique de Bordeaux, animée par Roger Salamon. Et le site a été longtemps copiloté à la fois par Roger Salamon et par le professeur Thérèse Andry, qui était donc coordonnatrice du site avant de devenir directrice générale de la santé, puis même ministre de la santé en Côte d'Ivoire. Donc le modèle est assez maintenant classique, encore qu'il soit pas le même par exemple dans le milieu anglo-saxon, hein, où nous avons dans ces sites ANRS de l'implantation, le financement des sites, et puis ensuite ces sites postulent sur des projets qui sont jugés par une commission scientifique à l'agence, dans lequel il y a des scientifiques du Nord, mais aussi des scientifiques du Sud, donc c'est ouvert à la concurrence de tous les sites. Hein. Et puis pour chaque projet, il y a un investigateur Nord et un investigateur Sud. Alors, ce site d'Abidjan est particulièrement remarquable, disons-le, pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de production scientifique et au plus haut niveau, plus de 350 publications, mais surtout des publications et des résultats qui ont marqué, qui ont changé les recommandations OMS, par exemple. Et ça a été le cas, vous en avez discuté hier.
On en a parlé hier, absolument.
Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu beaucoup de formations de jeunes médecins, de chercheurs, et qui est un élément aussi très important en master, en doctorant, et ça aussi, c'est vraiment très très important. Et le troisième, c'est que tout ça, ça a continué à se faire malgré la crise qui s'est passée politique, qui s'est passée en Côte d'Ivoire à un moment donné. À la fois les équipes ivoiriennes, mais les équipes françaises ont souhaité poursuivre cette collaboration au plus haut niveau. J'étais même amené à prendre parfois des décisions qui étaient un peu folles, hein, de type il y avait besoin de lancer un essai, un grand essai, alors même qu'il y avait la crise, ou même transférer des financements dans des conditions pas faciles au moment où les banques étaient un peu bloquées à cause de la crise. Et nous avons tenu, et les résultats sont là, et les résultats de ces grands essais sont là. Et donc là, maintenant, c'est l'avenir. L'avenir, je le vois bien, parce que d'abord, il y a une transition générationnelle qui est en train de se faire, avec de jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir, et c'est très très bien. Et le deuxième élément, c'est que ça s'ouvre, et c'est l'objet de cette émission, sur les hépatites, mais pas seulement sur les hépatites. Les équipes ivoiriennes, les équipes d'Abidjan, les équipes du site ANRS nous ont beaucoup aidés, par exemple, avec notre casquette, pour mener de la recherche sur Ebola en Guinée depuis maintenant 4 mois. Et ça montre bien comment un transfert de savoir-faire Sud-Sud peut se faire.
Effectivement, aujourd'hui, on va principalement parler des hépatites, mais j'aurais quand même une autre question à vous poser. Quels sont les autres sites ANRS dans les pays du Sud ? Vous avez cité le Sénégal.
Oui, on en a une dizaine. Donc, il y a en Afrique de l'Ouest le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun. On a le site Égypte, qui est un site très particulier, justement dédié aux hépatites à cause de l'épidémie d'hépatite C en Égypte. On a en Asie, le Cambodge et le Vietnam. On a également le Brésil. On a aussi l'Afrique du Sud, où maintenant c'est quasiment un site compte tenu de l'ampleur de cette épidémie.
Là-bas.
Voilà. Et donc vous avez à peu près le périmètre, et puis il y a un certain nombre de pays, bien sûr, avec lesquels on collabore. Le modèle est toujours le même, ça passe par un partenariat politique au plus haut niveau au départ, où il y a une signature entre le gouvernement français via la NRS et les autorités sanitaires du pays au niveau du ministère de la Santé, sur le programme à la fois VIH et je l'espère maintenant de plus en plus avec le programme hépatite.
Docteur Émile Alakouadio, donc on va parler des hépatites aujourd'hui. Les hépatites, en fait, si on prend la Côte d'Ivoire, sont beaucoup plus fréquentes que le sida. Les taux de prévalence sont beaucoup plus importants.
Oui, bien sûr. Nous sommes à près de 13% pour l'hépatite virale B. Pour une population de 22 millions d'habitants, ça vous fait à peu près 2 500 000 malades. Et en ce qui concerne l'hépatite C, nous sommes à des taux de prévalence de 3%. Et cela nous comptabilise à peu près 600 000 malades porteurs de l'hépatite C.
Et pourtant, c'est une pathologie mal connue du grand public.
Oui, elle est assez mal connue pour diverses raisons. Les premières raisons sont d'abord d'ordre culturel. C'est une maladie qui est abusivement assimilée au paludisme en raison des symptômes qui,
si c'est ça, on parle de paludisme jaune ou blanc.
Voilà, le paludisme jaune, le guaicoadio.
Alors que ça n'a rien à voir avec le palud.
Ça n'a rien à voir avec le palud à la phase aiguë. Le syndrome pseudo-orchical ou pseudo-paluste est considéré justement comme une infection au palud. Et la plupart de nos patients, justement, vont faire de l'automédication au lieu de consulter.
Et l'automédication, ça veut dire, on peut le dire, en allant voir le tradipraticien aussi.
En allant voir les tradipraticiens et en faisant de l'automédication, même dans les officines pharmaceutiques. Aujourd'hui, beaucoup d'antipaludéens sont délivrés parfois dans les officines sans prescription médicale.
Professeur Delfraissy, pendant longtemps, moi j'ai quand même eu l'impression que la NRS ne s'est intéressée à peu près qu'au sida. Depuis quelque temps, elle s'intéresse vraiment aux hépatites. Pourquoi finalement ça a été important? Parce qu'il y avait des co-infections, ça a été ça l'idée, le truc?
Il y avait des co-infections, puis parce que c'est un vrai problème de santé publique. En fait, au début de la NRS, notre mission avait été ciblée autour du VIH. Puis ensuite, ça s'est ouvert dans un deuxième temps au niveau des hépatites. Moi, quand j'ai pris la direction de l'agence il y a 10 ans, le budget consacré aux hépatites à l'agence, c'était 5%.
Et aujourd'hui,
c'est 30%. Un tiers. Alors, s'il y a eu un long chemin qui a été fait, bien sûr, avec les hépatologues de France, c'était une des premières questions qui se posaient, mais qui commence maintenant à se faire de façon importante avec les collègues du Sud aussi. On a un site qui est dédié complètement à l'hépatite C en raison d'une épidémie très particulière dont on a déjà discuté, qui est celle de l'Égypte, avec environ 12 à 14 millions de personnes qui sont contaminées par l'hépatite C. Et on accompagne le gouvernement égyptien dans ce sens. Et puis depuis 2 ans ou 3 ans, on ouvre maintenant sur des questions qui nous paraissent importantes pour justement faire sortir les hépatites de l'oubli, les faire arriver au sommet de nos priorités, avec un certain nombre de sites du Sud, et en particulier, c'est le cas du site d'Abidjan.
Professeur Alain Attia, on va parler d'une étude qui a démarré. D'ailleurs, je ne sais pas très bien. Vous êtes co-investigateur d'une étude ANRS-TAC sur l'efficacité de nouveaux traitements contre l'hépatite C, entre autres ce nouveau traitement sofosbuvir dont on a pas mal déjà parlé nous dans l'émission, un médicament efficace. En quoi va consister l'étude là? Elle est en train de démarrer. Vous êtes en train de monter ce qu'on appelle la cohorte, les patients qui vont y participer.
Oui, tout à fait. Merci Claire. L'étude n'a pas vraiment démarré encore. Elle va démarrer probablement en mai ou en juin. Et c'est une étude qui est innovante parce que c'est la première fois en Afrique de l'Ouest qu'on va utiliser les nouveaux médicaments antiviraux à action directe pour l'hépatite C et entièrement par voie orale. Ce traitement a été proposé dans 3 sites. La Côte d'Ivoire, d'une part. Le Sénégal, d'autre part, c'est 2 pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis le Cameroun, d'autre part. Cameroun qui est particulier parce qu'il y a un génotype qui est plus fréquent et qui n'existe pas chez nous, c'est le génotype 4. Et donc,
Mais c'est le site ici de Côte d'Ivoire qui va coordonner cette étude.
Tout à fait, c'est le site Côte d'Ivoire qui va coordonner cette étude-là. Et donc, en vue d'inclure ces patients, donc, il y a donc une étape préliminaire de pré-inclusion. C'est des patients qui sont éligibles pour ce traitement, qu'on prépositionne en attendant le démarrage de l'étude pour pouvoir la démarrer elle-même.
Et on va voir justement dans cette émission comment on fait pour inclure des patients dans une étude.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, Priorité Santé est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion des 20 ans du site de l'ANRS en Côte d'Ivoire. Professeur Alain Attia, on était en train de parler de cette étude ANRS-TAC. Effectivement, il faut d'abord, pour faire cette étude sur l'efficacité d'un traitement, inclure des patients. Comment on choisit dans un contexte où, pour l'instant, les gens n'ont pas accès à ce médicament? Donc, j'imagine qu'ils ont tous envie de rejoindre votre essai.
Oui, c'est vrai que c'est difficile. Et comme je l'ai dit, c'est une inclusion prospective qui va se faire en tenant compte d'un certain nombre de critères d'inclusion. D'abord, il faut répondre aux critères d'inclusion.
C'est-à-dire, en gros, d'être à un stade, entre guillemets, avancé de la maladie pour que
non,
ça mette le coup de
traiter. Non, tous les enjeux, justement, consistent à inclure des patients qui sont virémiques, dont on a la preuve qu'ils sont porteurs du virus de façon active et qui ont un génotype qui répondent aux critères d'inclusion. Le génotype 1, qui est beaucoup plus fréquent en Afrique de l'Ouest, et le génotype 2 et le génotype 4. Ensuite, on va regarder s'il n'y a pas de critères qui contre-indiquent l'inclusion dans ces essais chez les patients qui y sont pressentis pour entrer dans cette étude-là.
Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'imagine, moi, qu'il y a plein de patients qui ont envie de rentrer dans cet essai.
Oui.
Quand ça commence à se savoir, non?
Oui, mais c'est tout l'enjeu de telles études. On doit inclure un certain nombre de patients limités. C'est une étude de phase 2. Mais malgré tout, on prépositionne un certain nombre de patients pour avoir à les inclure plus tard. Et je pense que le critère le plus objectif, ça va être le critère d'inclusion progressive dans une file active de patients.
Si j'ai bien compris, l'idée c'est de voir comment ce médicament, ce sofosbuvir, est efficace dans un contexte de pays en développement. Parce qu'en fait, sur l'efficacité en soi de ce médicament, il n'y a pas de doute. C'est un traitement de 12 semaines qui permet de guérir. C'est une grande avancée.
Tout à fait. Alors, ça va être une combinaison d'antiviraux directs. Le sofosbuvir associé à la ribavirine. Ça va être une bithérapie pour la patiente de génotype 2 et probablement sofosbuvir plus les dispasvir pour les patients de génotype 1. Ça reste à définir.
Et pourquoi il faut faire une étude finalement sur le terrain? Pourquoi ça ne suffit pas les études qui ont été menées dans le Nord?
Ça a été bien démontré, l'efficacité a été bien démontrée dans les séries occidentales. C'est vrai qu'il y a des facteurs prédictifs de réponse thérapeutique. Il y a des facteurs qui dépendent du virus. Bon, ça c'est relativement bien connu. Il y a des facteurs qui dépendent du patient lui-même et donc en particulier un profil génétique. Et donc, chez les patients africains, il y a un génotype qu'on appelle le génotype de l'interleukine 28B et une partie de un phénotype particulier, le TT, sont des mauvais répondeurs. Il y en a peut-être beaucoup plus chez les Africains. Il est important de voir chez ces patients-là s'il y a une influence éventuelle de ces génotypes. Mais d'une manière générale, c'est des médicaments qui sont très, très efficaces. On frise les 90% à 100% et on veut confirmer l'efficacité chez des patients africains. Le deuxième enjeu, c'est que c'est des traitements par voie orale et c'est important, sans interférent, donc applicable à échelle de façon décentralisée. Et donc le deuxième enjeu va être ensuite l'accessibilité et ça va être le deuxième combat.
C'est ça, est-ce qu'on peut faire ça en dehors d'Abidjan et pas simplement dans une grande ville? Professeur Delfrécy, là-dessus on a quand même beaucoup avancé. Un essai thérapeutique comme celui-là, il est mené absolument de la même manière que ce qui serait fait à Paris?
Oui, on peut dire vraiment de la même façon. Les bonnes pratiques cliniques, le recrutement des patients, le recours au comité d'éthique, c'est vraiment assez proche de ce qui peut de ce qui peut amener en France. Bon, et la capacité des chercheurs et des médecins ivoiriens est comparable à celle qu'on trouve dans les sites français. C'est important qu'un essai de ce type se monte. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr les aspects scientifiques qui viennent d'être donnés. On ne sait pas finalement, en fonction d'un certain nombre de marqueurs, si l'efficacité va être la même. Et puis il y a une sorte aussi de plaidoyer. L'OMS, pour prendre des recommandations sur l'hépatite C, a besoin de s'appuyer sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a comme étude menée dans les pays du Sud, avant de recommander l'utilisation des médicaments.
Oui, parce que question aujourd'hui, c'est que ce traitement est horriblement cher. Je crois que sur la France, c'est du 30 000 euros.
Il est très cher, donc il y a dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui sont fondamentales. Les pays ne bougent pas s'il n'y a pas des recommandations de l'OMS. Donc comment fait-on bouger l'OMS ? Et l'OMS n'est prête qu'à bouger, mais elle doit s'appuyer sur des résultats scientifiques. Donc il est important que les résultats scientifiques ne viennent pas uniquement du Nord, mais viennent également du terrain, viennent du Sud. On l'a vu sur comment ça s'est passé dans le VIH. Il y a encore un certain nombre de gens, appelons un chat, qui pensent que les patients africains ne seront pas capables de prendre correctement un traitement de 12 semaines, ce qui est une aberration.
Il y a encore ça sur les hépatites, ce qu'on n'a plus sur le VIH.
Ce qu'on a connu sur le VIH il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il y a des gens, j'ai l'impression de recommencer
à répéter la même chose,
le même plaidoyer, hein, y compris d'ailleurs dans la grande industrie pharmaceutique. Hein. Et donc, on a besoin d'un certain nombre d'essais de ce type pour montrer, un, que c'est faisable, deux, que ce sont des chercheurs africains qui l'ont fait, et trois, que les résultats sont assez comparables à ceux qu'on a obtenus au Nord. Et avec ça, c'est sur ce type d'argument que l'OMS est amené à prendre des décisions. Et quand les décisions, les recommandations de l'OMS sortent, après, c'est le flot qui va vers les pays du Sud, et il y a les décideurs, les programmes nationaux des pays du Sud peuvent s'appuyer sur les recommandations de l'OMS.
Et c'est comme ça aussi qu'après, vous pouvez faire pression sur l'industrie pharmaceutique pour que le prix baisse.
Alors ça, c'est une deuxième étape qu'il faut bien dissocier des résultats scientifiques. Il y a ensuite les problèmes de coûts qui ne sont pas simples. Ils existent au Sud, mais comme on en a déjà parlé, ils existent au Nord. Vous savez que le coût des médicaments contre l'hépatite C est un problème majeur, y compris au niveau français, hein, pour notre sécurité sociale. La moitié du budget des médicaments de l'assistance publique à Paris en 2014 était liée au coût du traitement de l'hépatite C. La moitié du budget médicaments, hein, c'est vraiment considérable. Donc, c'est un problème qui va se poser au Sud. Et là, je vais laisser mes collègues du Sud vous expliquer comment ils vont faire. Et on va les aider, bien sûr.
Justement, alors, docteur Émile Alloc, Quadio, vous qui êtes responsable justement du programme de lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire, vous allez vous y prendre comment là pour dialoguer avec l'industrie pharmaceutique ? Vous avez commencé un peu ?
Oui, effectivement, au mois de janvier, lorsque nous nous sommes retrouvés au congrès parisien sur les hépatites virales, on a eu la chance d'approcher les responsables d'un grand groupe pharmaceutique.
En l'occurrence, c'est Gilead, hein,
voilà.
Pas de doute.
Et qui nous a un peu développé sa vision. Ce qu'on a retenu, c'est que il ne voudrait pas des approches pays par pays, mais plutôt des approches à partir d'ensembles sous-régionaux. Contrairement à l'Égypte, l'hépatite C n'a pas une forte prévalence dans nos contrées. Donc il était important pour ce groupe pharmaceutique d'avoir un certain nombre de pays qui vivaient la même problématique. Donc on nous a demandé de nous mettre ensemble.
Et est-ce que vous avez commencé à discuter prix ?
On n'a pas encore commencé à discuter prix parce que, disons que la plateforme est pour le moment informelle. La question était de savoir est-ce que le plaidoyer allait être porté par des sociétés savantes ou alors est-ce que c'était les politiques qui devaient justement assurer le leadership de ce plaidoyer. Et je crois qu'il y avait une réunion au mois de mars en Égypte qui devait justement définir un peu la stratégie que ces pays du Sud devaient mettre en place. Et puis je
comment
pense que
comment vous faites justement, professeur Attia, c'est quoi des gastro-entérologues comme vous qui essayent d'inciter le gouvernement ivoirien à négocier, à bien négocier? C'est comme ça que ça se passe?
Je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet porté par les sociétés savantes pour en vue du gouvernement. Donc le premier volet, c'est vraiment de mutualiser les patients de pays des sous-régions pour augmenter le nombre de patients. Par exemple, l'Organisation Ouest-Africaine de Santé, la CDAO, l'UMOA, qui sont des ensembles qui permettent d'avoir beaucoup de patients et d'avoir une négociation plus intéressante avec les firmes pharmaceutiques pour baisser les coûts. Deuxième levier d'action, c'est d'inciter justement à la création des associations de patients pour que la voix porte. Parce qu'il y a, il faut apprendre de ce qu'on a vu avec le VIH, des associations de personnes qui se sentent impliquées et qui vont faire du lobbying et du plaidoyer également. Et avec ces deux éléments, je pense que les gouvernements devront se saisir de la perche au vol.
On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Donc toujours pour parler des recherches menées sur les hépatites, ici sur le site ANRS de Côte d'Ivoire.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan à l'occasion des 20 ans du site de l'ANRS en Côte d'Ivoire. On est en train de parler plus particulièrement des recherches sur les hépatites avec le professeur Alain Attia, qui est adjoint au chef de service des pathologies au CHU Diopougon, le docteur Émile Alakouadio, responsable du programme national de lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire et hépato-gastro-entérologue au CHU de Cocody. Le professeur Jean-François Delfrécy, directeur de l'ANRS, est également coordonnateur Ebola pour la France et l'Afrique, et le docteur Camille Yanoma, qui est coordonnateur de l'ONG Espace Confiance. Juste avant les informations, on était en train de parler de ce nouveau traitement contre l'hépatite C, de la question de son coût, des négociations avec le laboratoire, avec Gilead. Professeur Jean-François Delfrécy, l'Égypte a un peu déjà avancé sur cette négociation. À combien devrait-il obtenir ce traitement, qui est un traitement sur 12 semaines hein, pour l'instant?
Alors, en France, le coût du médicament de traitement pour 12 semaines, il se situe autour de 45 000, 50 000 euros. Hein. C'est le prix qui a été fixé.
Le prix a un peu baissé quand il est près de 30
000 euros. Le prix a un peu baissé, puis après il y a les négociations. Enfin, le prix officiel, il est autour de ça. Bon. Et en Égypte, le partenariat entre le gouvernement égyptien et Gilead fait que ce coût devrait être amené autour de 900 dollars ou 1000 dollars. Hein. Et le gouvernement égyptien souhaite, probablement avec des génériqueurs indiens aussi, pouvoir avoir accès à ces molécules.
Parce qu'étonnamment, ça va être, Gilead a accepté que deux génériqueurs indiens produisent son médicament à moindre coût.
Oui, parce que bon, les choses vont beaucoup plus vite sur hépatite qu'elles n'ont été sur VIH. Hein. Donc la révolution thérapeutique est une vraie révolution, il faut le rappeler. Hein. Éradiquer un virus à plus de 90% des cas, c'est un succès médical.
Oui, contrairement au sida, on guérit.
Extraordinaire. On guérit. Hein. On n'est pas dans des enjeux de coût qui sont des traitements continus. C'est un traitement de 12 semaines. Donc le principal enjeu, c'est de dépister les personnes et ensuite de voir celles qui doivent être traitées, et ensuite de les traiter. Pour cela, l'accès aux nouvelles molécules n'est pas pour tout le monde tout de suite. Hein. Il faut bien avoir conscience de ça. On ne traite pas. C'est pas parce qu'on est porteur d'une hépatite C qu'on doit être traité dans les 15 jours.
Hein. Et c'est le même cas en France, d'ailleurs.
Et c'est tout à fait vrai en France. Donc le modèle, il est à la fois proche du VIH, et il est aussi très différent, hein, très très différent. Donc les choses vont bouger. Gilead a choisi d'avoir un certain nombre de génériqueurs, probablement pour éviter aussi d'avoir des copies faites par des génériqueurs qu'ils ne maîtriseraient pas. La principale crainte de l'industrie pharmaceutique, qui est dans un grand boom commercial, enfin, rappelons quand même, c'est des enjeux majeurs en termes de financement dans les pays du Nord, le coût des hépatites, hein, c'est que s'il y a fabrication de médicaments génériques pas bien contrôlés dans les pays du Sud, leur crainte, c'est pas les pays du Sud, c'est que ces médicaments reviennent au Nord et avec un coût qui serait moindre. Et donc, ça change les donnes sur les ventes dans les pays du Nord. Donc, on est dans des modèles un peu complexes. Les choses bougent. Moi, je suis assez optimiste, à vrai dire.
Et ce 900 dollars pour l'Égypte, ça nous donne un ordre de grandeur de ce que ça sera dans les pays en développement, de ce que ça pourrait être en Côte d'Ivoire, où on pourrait, entre guillemets, obtenir mieux,
c'est-à-dire
moins cher.
En tout cas, c'est une porte pour nos collègues
ils auront en tout cas
du
pas
Sud
payer plus.
Et pour les associations. À dire que c'est un prix plancher sur lequel ils sont obligés de s'arc-bouter.
Voilà, j'imagine qu'il y aura des discussions là-dessus. Quand même, ce prix, pour l'instant, c'est pas pris en charge, je dirais, par des organismes comme le Fonds mondial. Donc, à terme, pour l'instant, ça va pas être gratuit pour le patient. Quand bien même vous arrivez à obtenir en Côte d'Ivoire du 900 dollars, c'est quand même horriblement cher pour le patient. Il faut encore inventer autre chose derrière, c'est-à-dire un coût moindre, ça suffit pas, professeur Attia.
Je pense que pour rebondir sur la crainte à émise le professeur Delfrécy, c'est à charge pour les pays qui vont recevoir ces médicaments génériqués d'assurer la traçabilité. Ça va être la contrepartie importante également pour continuer d'avoir accès à ces médicaments sans...
Mais 900 dollars pour les patients,
alors 900 dollars,
c'est
très cher. Et donc, je pense que c'est un prix plancher à partir duquel on doit mener la discussion. Et ça sera d'autant plus intéressant de faire une négociation groupée avec plusieurs pays sous-régionaux pour justement avoir une masse critique de patients potentiels et donc discuter les prix plus à la baisse.
Mais quand bien même ça va baisser, j'en sais rien, moi je dis un chiffre au hasard, mais quand bien même la moitié, ça reste très cher pour les patients. Il faut encore inventer un autre système, je dirais. pour que ce soit gratuit pour le patient. On sait que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place une couverture médicale universelle qui devrait entrer en fonction en septembre, hein, juste un mois avant les élections. Est-ce que ça devrait faire partie de cette couverture médicale universelle, le traitement de l'hépatite C?
Oui, absolument. Je pense que bon, il faudra hors essai réserver ces médicaments à des malades les plus atteints. Il faudra opérer des choix prioritaires. Les malades qui ont une maladie les plus sévères devront être traités en priorité. Et puis, il faut faire le plaidoyer également auprès du gouvernement.
Et vous le faites?
Oui, je pense que à travers le programme national de lutte contre les hépatites virales, à travers le réseau ivoirien lui-même de lutte contre les hépatites virales, il y a un plaidoyer qui est fait par rapport à la sensibilisation des autorités. Il faut que ces médicaments fassent partie des médicaments essentiels de l'AMU.
Professeur Attia, vous nous tiendrez au courant, hein, à la fois de l'essai que vous êtes en train de mener avec la NRS, hein, sur l'efficacité de ce traitement, et puis aussi du à quel coût vous allez l'obtenir. Est-ce que ça fera partie de la couverture médicale universelle? Ça nous intéressera de savoir ce que ça devient. Je voudrais bien maintenant qu'on parle de l'hépatite B, parce que la prévalence de l'hépatite B est encore plus importante en Côte d'Ivoire. Vous nous avez dit, hein, 13% à peu près, c'est ça. Quels sont d'abord un petit point sur les modes de contamination? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Professeur Attia, allez-y.
Alors, les deux principaux modes de contamination dans les pays de haute endémicité, comme la Côte d'Ivoire, c'est la transmission horizontale intrafamiliale dans la petite enfance, avant l'âge de 5 ans, et puis la transmission verticale.
Comment, quand on dit du intrafamilial, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le partage de certains objets, une certaine promiscuité, fait que des parents peuvent contaminer les enfants, ou dans la fratrie, les aînés peuvent contaminer les plus jeunes.
Et donc, mais par quel mode?
Par exemple, des morsures, parfois le partage de brosses à dents avec des blessures, le partage de
via
de,
le sang, donc, dans
oui,
ces cas-là.
Oui, des objets coupants. Par exemple. Et puis, parfois, certains rituels, rites culturels, l'excision, la circoncision, etc. Et donc, c'est l'un des deux premiers modes de contamination. Et le deuxième, non négligeable, c'est celui de la transmission mère-enfant, qui est important. Et ces deux principaux modes justifient les efforts qu'on doit faire en termes de prévention.
Et de vaccination. On va y revenir, hein, sur la question de la vaccination.
Ensuite, il y a, pour ceux qui n'ont pas été contaminés à cette période-là, il y a la transmission par voie sexuelle, généralement à l'adolescence, à partir de l'âge adulte en particulier. Voilà,
juste avant de parler du vaccin, un mot sur les traitements. Il y a des traitements, mais alors qui, pour le coup, doivent être pris sur la durée. Et là se pose aussi un problème de coût.
Oui,
ils sont disponibles, ces traitements, ici, en Côte d'Ivoire?
Ces médicaments sont disponibles. Disons qu'il y a deux types de médicaments. Il y a des médicaments de durée limitée qui sont chers et qui ont parfois des effets secondaires qui peuvent être difficiles à gérer. C'est l'interféron pegylé. Et puis, il y a des traitements par voie orale, généralement mieux tolérés, mais qui sont à prendre à vie, pratiquement, puisque c'est un effet suspensif uniquement.
Est-ce que du coup, il y a des patients, parce que ce sont des traitements qui sont relativement chers, qui commencent, qui ne peuvent pas continuer à cause des coûts, comme on a vu sur le sida à un moment?
Alors, c'est un peu dommage, il faut être co-infecté avec le virus VIH pour avoir accès à ces médicaments, ce qui est proprement scandaleux. Actuellement, il y a un plaidoyer qui est en train d'être fait par le programme, justement, pour essayer d'avoir ces médicaments subventionnés dans les hôpitaux publics pour les malades mono-infectés. C'est un combat et c'est un appel qui est
difficile à comprendre pour les gens qui ont que l'hépatite B. On en vient à dire à quelqu'un, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez l'hépatite B, mais c'est une chance, vous avez le sida, donc vous allez pouvoir être soigné gratuitement. C'est presque ça.
Oui, tout à fait.
Professeur Delfrécy, il y a une bataille aussi là à mener sur la question du... Finalement, pourquoi des organismes comme le Fonds mondial ne feraient pas que sida, palu et tuberculose et ne rajouteraient pas les hépatites? Non, mais vous souriez, mais je pense qu'il y a une vraie discussion en fait
là-dessus.
Non, mais
c'est une vraie discussion. Et quand il y a eu la mise en place de ces fonds internationaux, les hépatites étaient moins connues à ce moment-là et ont raté un peu un passage, hein, pour dire les choses comme elles sont. Et maintenant, c'est très visible. Il y avait moins de traitements, on n'éradiquait pas l'hépatite C, mais il y avait déjà une série de médicaments de l'hépatite B. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, à l'OMS, l'unité qui s'occupait du VIH s'occupe maintenant des hépatites. À UNAIDS, qui était dans son statut uniquement le VIH, Michel Sidibé a décidé d'ouvrir sur les hépatites. Et quand on en discute avec le président du Fonds mondial, bon, il est prêt à ouvrir un peu. Donc on sent bien qu'il y a une brise qui permettrait au bateau de partir et éventuellement d'entraîner. Cela dit, il y a évidemment des investissements très lourds derrière. Ce que je voudrais dire sur l'hépatite B, c'est que c'est vraiment le problème majeur, hein, de majeur pour cette Afrique de l'Ouest, pour un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest.
Quand on voit les taux de prévalence, c'est impressionnant.
Et que c'est quand même troublant, c'est-à-dire que là, sur l'hépatite B, on a un vaccin qui est efficace, qui est bien toléré. On a des médicaments qui sont sous forme générique, hein, c'est les mêmes médicaments que pour le VIH, qui sont efficaces, qui sont pas chers. Donc finalement, en termes de recherche, trouver un vaccin, trouver les médicaments, le job est fait. Hein. Et donc ce qui se passe maintenant, c'est vraiment ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle, c'est comment intégrer ces connaissances dans un programme national, et ce sont des choix qui sont vraiment qui repose sur les programmes nationaux. Les programmes nationaux hépatite, je mets la pression un peu sur notre collègue en France, vous avez tous de très lourdes responsabilités dans les deux ou trois des années qui viennent, parce que la recherche, on va vous aider. Mais finalement, la majorité du travail a été réalisé. On peut encore vous aider sur certaines questions pour pousser l'OMS, pour être encore, mais la majorité des questions étaient déjà finalement résolues. Et maintenant, c'est l'implémentation de ça. En termes stratégiques, comment on met en place un programme de vaccination universel au Sénégal, comment et ailleurs, comment on a un accès aux soins avec les génériques. Et je crois que vraiment ce qui va aider ces pays, c'est vraiment qu'ils s'appuient beaucoup plus avec les hauts et les bas qu'il y a parfois, mais sur les associations de patients. Parce que sur le VIH, et ça a été le principal lobbying, c'est ce qui a fait bouger les lignes au niveau du Fonds mondial. Si vous voulez les faire bouger sur les hépatites, il faut qu'il y ait des associations de patients qui soient fortes et qui s'expriment fortement.
Et qu'elles se battent. On va parler justement, vous avez commencé à l'évoquer, du vaccin. C'est important, ce vaccin contre l'hépatite B. Il fait partie du programme de vaccination ici en Côte d'Ivoire, docteur Émile Alakouadio. À quel âge les enfants sont-ils vaccinés?
Le vaccin contre l'hépatite B a été introduit depuis 2002 grâce justement à un plaidoyer mené par la Société ivoirienne de gastroentérologie et d'endoscopie digestive. Et ce vaccin, malheureusement, commence à la sixième semaine. C'est un vaccin combiné.
Quand le bébé a six semaines.
Voilà, à partir de la sixième semaine, il reçoit sa première dose.
Et alors, vous dites malheureusement, parce qu'on sait que la transmission mère-enfant, elle se fait à la naissance. Et donc, pourquoi le programme de vaccination ne prévoit pas une vaccination contre l'hépatite B à la naissance?
Mais cette question a été adressée au programme il y a 2 ans. On nous a demandé de venir exposer un argumentaire devant la Commission nationale de la vaccination. Nous avons démontré avec des preuves scientifiques qu'il était important de commencer cette vaccination dès la naissance. En fait, en matière de politique vaccinale, il existe deux schémas, le schéma A et le schéma B. Et la Côte d'Ivoire a opté pour le deuxième schéma qui consiste à commencer la vaccination dès la sixième semaine, alors que certains pays d'Afrique appliquent le schéma A.
Mais, c'est-à-dire la vaccination à la naissance.
À la naissance. Mais chez nous, cela supposerait...
Et vous n'avez pas réussi à convaincre le gouvernement, en gros, c'est ça?
Mais en fait, la vaccination est financée par des partenaires au développement pour...
L'Alliance pour les vaccins.
Voilà. Et ce plaidoyer a été repris à Ouagadougou lors d'une assemblée sous-régionale. Et malheureusement, les responsables de Gavi n'ont pas opté justement pour le financement de cette dose supplémentaire dès la naissance.
Professeur Delfrécy, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec Gavi, mais il y a quand même une aberration là, que Gavi, une alliance pour la vaccination, qui fait un travail extraordinaire en termes de vaccination sur le continent africain, finalement prévoit quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt. Un des modes de transmission qu'on pourrait éviter, c'est celui de la mère à l'enfant, et on vaccine à l'enfance. Pourquoi là on...
Non, mais d'abord parce qu'à Gavi, il y a c'est une énorme banque de vaccins à Gavi. C'est pas une agence scientifique, hein. Et c'est un point important parce qu'à certains moments, ils prennent du retard dans la considération des avancées scientifiques. Le deuxième élément, c'est qu'il manque à Gavi. Moi, je le dis très depuis longtemps, donc je le dis publiquement. Gavi n'écoute pas suffisamment la société civile. Les différentes associations de patients ne sont pas présentes à Gavi. Ou ne sont pas suffisamment présentes à Gavi. Et enfin, troisièmement, et alors là, c'est plutôt pour les défendre un peu, dans la stratégie B de vaccination plus tardive, il y avait une logique d'être plus efficace, parce que le système immunitaire est plus mature, et donc pour les autres vaccinations où il n'y a pas cet enjeu de contamination entre le temps 0 et le temps 6 semaines, la vaccination avec les autres vaccins a probablement une activité qui est un tout petit peu plus grande. Donc il y avait une balance à trouver. Moi, j'ai jamais compris leur décision. D'ailleurs, je suis pas le seul, vous non plus. Et il y a un certain nombre de pays qui, malgré Gavi, ont pris des décisions de vacciner contre l'hépatite B à J0.
Et en plus, comme le Sénégal, vous venez de le dire.
Comme le Sénégal, comme par exemple. Ou toute l'Asie du Sud-Est. Toute l'Asie du Sud-Est, Taïwan a éradiqué, et la Chine va le faire à assez court terme, avec une vaccination se fait à la naissance.
Alors, juste en ce moment, donc, la vaccination est à 6 semaines. Qu'est-ce qu'on peut juste conseiller? En fait, il faudrait que les femmes enceintes se fassent dépister sur l'hépatite B, c'est ça, professeur Attia?
Il y a deux pistes. Prévoir une vaccination monovalente à la naissance pour tous les enfants, parce que ce n'est pas forcément évident d'atteindre le deuxième objectif. Mais le deuxième objectif, c'est de faire du dépistage chez la femme enceinte systématiquement, quitte à accentuer les efforts chez les mères antigènes HBS positifs.
Pour les Ivoiriennes qui nous écoutent en ce moment, puisqu'on est à Abidjan, le conseil, c'est quoi? Ce serait donc de se faire dépister pour savoir si elles sont porteurs de l'hépatite B. Mais ce test-là, il coûte combien, en gros?
Bon, il coûte entre 5 000 et 7 000 francs CFA.
Donc à peu près 10 euros.
Et les enjeux seraient de pouvoir le baisser à 1 000 francs CFA. En validant
tests de diagnostic rapide. Ça déjà, ça le rendrait plus accessible parce que ça, du coup, c'est pas pris en charge. Voilà, ça c'est la première chose. Après ça, elle découvre, la maman, qu'elle est porteuse finalement de l'hépatite B. Le conseil, c'est de vacciner à la naissance, quand bien même ça fait pas encore partie du programme de vaccination. Ce vaccin à la naissance, il coûte combien à la maman?
Prix Institut National de Vaccination, c'est de l'ordre de 3 000 francs, 2 500, 3 000 francs à peu près CFA.
La dose, donc la un dose. Peu moins 5 euros à peu près.
3 500.
Ouais, d'accord. Mais c'est ça que ça coûte en ce moment à la maman en Côte d'Ivoire, et parce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire.
En attendant de pouvoir subventionner ça, il faut les sensibiliser au maximum pour leur montrer les enjeux. Et en général, ces personnes sont très sensibles par rapport à l'enfant à venir.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion des 20 ans du site de la NRS en Côte d'Ivoire. Docteur Camille Anoma, je ne vous ai pas encore donné la parole, mais je voulais vous faire parler. Je suis venue hier vous voir à la clinique Confiance. Vous êtes coordonnateur de cet espace Confiance, un endroit, une clinique un peu particulière qui s'adresse à des populations qui sont un peu rejetées finalement dans le système de santé classique, on pourrait dire ça?
Oui, merci Claire. Effectivement, nous nous adressons à ce qui est convenu d'appeler les populations stigmatisées, donc spécifiquement les travailleuses du sexe, en Côte d'Ivoire rendues professionnelles du sexe, et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et donc nous occupons à la fois du volet prévention, donc prévention primaire, éviter que ces populations soient en contact soit avec les IST communes, soit avec le VIH. Deuxième chose que nous faisons, c'est aussi prendre en charge médicalement ces personnes, à la fois sur le volet IST, dépistage systématique, prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH, donc accès aux ARV, bilan initial, etc. Et également aussi simplement offrir ce qu'on appelle les soins de santé primaires.
J'étais venue vous voir il y a 3 ans et demi quand j'étais venue à Abidjan. On avait fait un reportage sur tout le travail que vous faites. Pour le grand public qui comprenne pourquoi c'est important de soigner ces populations entre guillemets un peu marginalisées.
C'est important tout simplement parce qu'il est démontré maintenant dans tous les pays que ces populations sont les populations les plus touchées par le VIH. Et donc avoir donc une action spécifique qui permettrait donc de réduire les incidences dans ce groupe a clairement un avantage au niveau de la population générale parce que les travailleuses du sexe sont bien sûr en contact avec les clients.
Les hommes clients qui sont dans la population en général.
Tout à fait. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes également en général, particulièrement en Côte d'Ivoire, je pense que c'est démontré dans beaucoup de pays de la sous-région, ont également des rapports hétérosexuels. Donc évidemment, agir et avoir des résultats assez importants au niveau de ce groupe-là, donc permet d'avoir des très bons résultats au niveau de la population générale. Et la Côte d'Ivoire qui, très tôt, a identifié cette cible comme étant une priorité au niveau national avec l'essence d'un programme, etc., est en train d'obtenir quand même de très bons résultats. Aujourd'hui, nous sommes à une prévalence de la population générale autour de 2,7% sur les derniers chiffres de l'ONU-SIDA.
Donc ça prouve que c'est important, c'est un bon moyen de faire de la prévention. J'avais vraiment envie que vous veniez dans cette émission et qu'on parle de ce que vous faites, parce qu'on parle recherche scientifique, et justement, il y a une étude qui va être lancée par le site de la NRS en Côte d'Ivoire, avec d'ailleurs d'autres sites, sur, c'est une cohorte qu'on appelle co-MSM, sur ces hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.
Il y a cette étude avec donc la cohorte des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, qui est une étude multicentrique, donc avec le Sénégal, le Burkina et le Mali. On a passé la phase d'initiation et la phase de faisabilité. Donc, on a démontré dans ces différents pays que c'était possible d'avoir des cohortes de MSM. Et là, bientôt, après les passages devant les comités d'éthique, on va rentrer dans une phase de suivi et d'offre de services spécifiques à ces populations-là.
Ce concrètement, suivi, ça veut dire que vous allez faire quoi? Et le but, c'est de montrer quoi?
Les enjeux, c'est vraiment de faire en sorte que on puisse démontrer la faisabilité de l'intérêt d'une prise en charge globale préventive trimestrielle des HSH dans le contexte africain. Ensuite, guider les recommandations nationales et internationales pour la prévention et la prise en charge du VIH. Et puis enfin aussi constituer un plaidoyer pour des initiatives similaires dans d'autres pays du Sud.
Alors concrètement, une cohorte, là par exemple, sur la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est une centaine de patients, c'est ça?
Sur la répartition qui a été faite, la Côte d'Ivoire, c'est une centaine de patients. Nous en sommes déjà à 103. Au Mali, c'est 200 patients. Au Sénégal, c'est 100 patients. Et au Burkina Faso, c'est également 100 patients. On doit donc offrir un suivi pendant 36 mois à ces personnes, et donc avec des visites trimestrielles au cours
donc
desquelles...
Donc a priori, ce sont des homosexuels qui ne sont pas porteurs du VIH-SIDA.
Oui, alors a priori, ceux qui rentrent dans la cohorte, c'est des homosexuels qui ne sont pas porteurs du VIH-SIDA. Après, il est évident qu'au cours du suivi, il y a des homosexuels donc qui, bien sûr,
risquent d'être
infectés par le VIH. Alors ce que la cohorte prévoit, donc, c'est d'offrir systématiquement la prise en charge avec les ARV, quel que soit le taux de CD4. Et également, ce qu'on veut au bout de tout ça aussi, c'est de montrer que en gardant le contexte actuel de prise en charge, on a quand même des populations qui vont finir par s'infecter, donc éventuellement faire des plaidoyers par rapport à la préexposition, l'utilisation du Truvada, etc.
Et ce que vous voulez voir, c'est finalement sur les 100 que vous allez suivre en Côte d'Ivoire, si on fait tout ce qu'il faut pour les informer en termes de prévention, de suivi médical, est-ce que du coup il y en a moins qui deviennent contaminés par le VIH-SIDA, c'est ça?
Oui, c'est sûr qu'il y en aura moins qui seront contaminés par le VIH-SIDA, mais déjà sur ceux qui sont contaminés par le VIH-SIDA, la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que ces personnes ont eu des comportements à risque? Et si malgré tout cet appareillage, tout ce paquet d'activités, on voit quand même des personnes qui deviennent positives pour le VIH, est-ce qu'il ne faut pas développer d'autres pistes? Donc c'est ça l'idée.
Quand on était hier venu vous voir, on a du coup rencontré un jeune homosexuel qui rentre dans cette cohorte, et je lui demandais un peu d'ailleurs mais pourquoi. Il me dit mais moi je vais être très très bien suivi si je fais partie de cette cohorte. C'est ça en fait l'intérêt pour les patients.
Oui, je crois
c'est
que
de se dire on va bien s'occuper de moi là, je vais pouvoir voir un médecin facilement, régulièrement.
Oui, je pense que ça c'est quand même important aussi. Il faut dire aussi que d'une façon générale, nous avons une politique de gratuité des services. Je crois que la communauté des homosexuels est quand même consciente aussi de tous les risques auxquels elle s'expose. D'où l'importance d'un suivi régulier avec la possibilité tous les 3 mois d'avoir sa situation au niveau du VIH et être capable à un moment donné de se faire prendre en charge suffisamment tôt, parce qu'il est démontré aussi que plus tôt on se fait prendre en charge, mieux l'évolution est de la maladie.
Professeur Delfrécy, je me trompe pas si je dis que c'est la première fois qu'il y a une étude comme ça qui est menée sur les populations homosexuelles en Afrique?
Alors c'est la première étude en tout cas de grande cohorte d'homo qu'on lance à la NRS au Sud. Il y a une cohorte qui existe mais qui est de plus petite taille, qui a débuté l'an dernier au Kenya. Puis il n'y a pas grand chose d'autre, parce que la majorité des études faites chez les MSM et les homos ont été faites dans les pays du Nord, puisque c'est dans les pays du Nord c'est beaucoup cette sous-population qui continue à porter l'épidémie. Et pourtant, c'est essentiel, parce qu'on sait bien que ces populations clés, en dehors de l'épidémie globale hétérosexuelle, et on sait qu'il y a des transferts, entre guillemets, que les hommes ne sont pas si hétéros qu'ils le sont, mais qu'il y a aussi un certain nombre d'hommes qui sont bisexuels, et que c'est comme ça que se propage et se poursuit l'épidémie.
Et pardon, professeur Delfrécy, c'est pas simplement parce qu'il y a des personnes qui sont bisexuelles, c'est aussi que dans un contexte de pays où il y a une forte discrimination contre les homosexuels, de fait, les homosexuels se marient, mais en dehors du mariage, ont des relations homosexuelles, risque de contamination dans le couple.
Exactement, c'est vraiment, on est là en train de toucher quand même à des points importants d'une société qui doit prendre le temps de se rendre compte que c'est une source de contamination. Et c'est totalement essentiel. Alors on voit la difficulté parce que par exemple cette étude devait se mener au Cameroun.
Et alors pourquoi ça n'a pas marché au Cameroun?
Et pour l'instant, mais je pense que ce n'est que passager, les autorités camerounaises, pour des raisons justement, je dirais, de politique au sens de culturel, n'ont pas souhaité, ont jugé que c'était prématuré de se lancer dans une étude chez les homos. Mais d'ailleurs, avec de la part des autorités camerounaises, un double aspect en disant oh là 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 là, c'est très chaud. Et puis de l'autre côté, de dire, mais mon Dieu, si vous faites une cohorte et que vous les désignez en tant que tels, vous risquez de les mettre aussi un peu en danger.
Hein.
Donc il y avait ce double aspect qu'il ne faut pas nier. Hein. Bon, et pourtant, c'est très important. Alors moi, l'autre point qui me plaît beaucoup dans cette cohorte, c'est qu'il y a un intérêt individuel pour les personnes qui vont y rentrer, vous l'avez souligné, c'est-à-dire il y a un package de soins et de prise en charge. Et puis il y a une vision de santé publique qui est autour de ça, hein, et qui surtout se fait sur la grande région. Et vraiment, de plus en plus, les programmes, là, maintenant, de recherche d'un certain niveau se font pas seulement sur un pays, mais se font sur plusieurs pays. Et on est là dans la collaboration Sud-Sud.
Hein. Oui, et c'est important de le dire. Oui. On est dans la collaboration Sud-Sud. On arrive à la fin de cette émission, professeur Delfrécy. J'aurais juste une dernière question à vous poser. En ce moment, se déroulent les journées scientifiques, hein, de ce site de la NRS en Côte d'Ivoire, hein, qu'on appelle d'ailleurs PACSI pour le site pour la Côte d'Ivoire. L'objectif de ces journées, c'est quoi exactement? C'est pas de faire le bilan des 20 temps et de dire on a été formidable, on a fait plein de recherches, c'est quoi? C'est plutôt d'aller de l'avant?
L'objectif de ces journées, c'est d'abord que tous les différents acteurs se connaissent, que aussi les autorités gouvernementales se rendent compte de ce qui a été réalisé. On les a tous les 2 ans, hein, donc c'est un bilan tous les 2 ans sur les 2 dernières années. Les présentations font l'objet de discussions scientifiques, où il y a aussi des collaborations avec des étrangers. On a là des gens d'autres sites à NRS, on a des Américains qui travaillent sur ces données aussi, et de façon à générer de nouveaux projets, et puis à faire passer les messages par rapport aux autorités de santé. Par exemple, je pense que parler de la cohorte homo telle qu'on vient d'en parler est un élément important en ce moment, y compris en Côte d'Ivoire. Je pense que parler du problème des hépatites, c'est un élément aussi stratégique pour les politiques ivoiriens. Et je pense que parler des résultats de l'essai Timprano dont vous avez parlé hier sur quand débuter le traitement chez les personnes séropositives, c'est pas seulement de la science pour la science, c'est de la science pour être appliquée et pour prendre des décisions par les décideurs de santé.
C'est de la science qui a directement un bénéfice pour les patients.
Voilà.
C'est important de le dire. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à Didier Bleu pour la réalisation. Demain, on sera de retour à Paris. Au revoir à tous et merci de m'avoir accueilli ici en Côte d'Ivoire.